Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Le 17 avril 1975, les Khmers rouges prennent le pouvoir à Phnom Penh. En 4 ans, ils vont tuer près de 20% de la population du Cambodge. Voici le premier épisode de l'histoire de Pignatai, un Cambodgien qui a vu mourir toute sa famille et qui a réussi à s'enfuir en Thaïlande. Une histoire que je tire de son livre qui paraît chez Archipoche, « Tu vivras mon fils ». Il sera là tout à l'heure. Simon Veil m'a aidé à écrire cette histoire. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Phnom Penh, 17 avril 1975. Je regarde ma montre, 5 heures. Je sors du lit, je vais à la fenêtre, je regarde, ébahi. La rue est pleine de gens. On dirait que tout le pays est là. Annie ! Annie, c'est la fin ! Les Khmers rouges seront bientôt là, il faut partir. Mais qu'est-ce qui va se passer, Yatai ? T'inquiète pas. Ce sera difficile pendant quelques temps et puis tout rentrera dans l'ordre. Pour l'instant, il faut habiller les enfants et gagner en vitesse le centre-ville avant l'arrivée des troupes. J'ai 3 enfants. Soudat, 9 ans. Nawat, 5 ans. Et un bébé, Stoud. Ça fait une semaine qu'on a tout prévu. Toute la famille doit se retrouver chez Juan, un cousin. On a fait le plein d'essence, il ne nous reste plus qu'à remplir 2 valises. Des vêtements, les bijoux d'Annie, nos économies et 3000 dollars en billets de 100. Une petite radio pour écouter les informations. Et aussi du papier, un crayon, un manuel technique sur l'irrigation. Je suis ingénieur, ça peut servir. Et un dictionnaire français-anglais. Je jette un dernier regard. Est-ce que j'aurais dû les envoyer à l'étranger? Non. Je déteste le régime corrompu qui est en train de tomber, celui du maréchal Lon Nol. Je n'ai rien à craindre des Khmers rouges. Ce sont des patriotes. Je connais beaucoup de gens qui les soutiennent. Mon père me dit que je me trompe, mais non. Ça reviendra comme avant. Ça sera toujours mieux que le régime pourri de Lon Nol. Je retrouve mes beaux-parents qui sont déjà dans leur Austin. Je fourre mes bagages dans ma Fiat. Et on s'engage dans la rue. Un torrent de piétons et de voitures, de vélos, de motos, de charrettes. Et on fait quoi? 100 mètres. À une rue de chez nous, s'élève une colonne de fumée. Il nous faut 2 heures dans cette marée humaine pour rejoindre le quartier de mon cousin Ho, près du fleuve. Et quand j'arrive, toute ma famille est là. Ho, ses 2 sœurs, leurs enfants, mes 2 frères et leurs enfants, au moins 30 personnes, soulagées de nous voir. Les enfants courent jouer dans le jardin, les femmes se retrouvent à la cuisine, sauf ma sœur Wak, qui reste avec nous, les hommes. Qu'est-ce qui se passe en ville? Oh, je suppose que les 2 camps sont en train de trouver un arrangement. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'annoncent pas à la radio, alors? Faut pas s'inquiéter. On aura bientôt un autre gouvernement avec le prince Yanouk à sa tête, vous verrez. Sur une desserte, il y a une radio allumée. Elle ne diffuse que de la musique militaire. Mais mon père, lui, répète ses mises en garde. Ce sont des communistes, Thaï. Des communistes. Ce qu'ils veulent dans ce pays. Ça va mal se terminer. Mais non, papa, enfin. C'est des rumeurs, ça. C'est de la propagande. Leur programme n'a rien de communiste. J'ai des amis chez eux. Ils ne me mentiraient pas. Et là, ma mère prend la parole. Montre un peu plus de respect à ton père, Thaï. On a parlé à des gens qui ont fui les zones libérées. Ils ont tué leur famille et brûlé leur maison. Les Khmers rouges sont cruels, Thaï. J'étais sûr d'avoir raison. À peu près 1 heure plus tard, on entend une clameur dehors. Mon cousin Sim sort pour voir, il revient en trombe.
Thaï, Thaï, ce sont les Khmers rouges, ils sont là.
On va jusqu'au portail, et je vais jusqu'au boulevard Monivong pour voir. On se fraye un chemin à travers la cohue, les gens sur les trottoirs, et au milieu, je les vois. Une colonne de soldats, comme je n'en ai encore jamais vu, habillés de noir, des uniformes taillés comme des pyjamas, des casquettes chinoises noires, ou pas, le regard droit devant eux, pas un sourire. Et quoi, 18 ans de moyenne d'âge, des adolescents au visage dur, dur, alors qu'ils reçoivent un accueil chaleureux, des automates. On rentre chez Ron. Bon, voilà, tout revient à la normale. Et on reste à discuter, à rire. On s'apprête à déjeuner ensemble. Et tout d'un coup, un homme arrive, essoufflé, apeuré, les vêtements en désordre.
Les Khmers Rouges. Les Khmers Rouges, ils nous ont fait sortir de nos maisons. Ils nous ont dit de partir de la ville. Tous. Qu'est-ce qu'on fait?
Ils plaisantent. Une évacuation de la ville? Mais quelle idée invraisemblable. Je décide d'aller consulter notre oncle, le patriarche Wat Tath, la plus haute autorité du bouddhisme cambodgien. On arrive à sa pagode au bord du fleuve. On s'agenouille, on fait nos trois saluts, les mains jointes devant le front. Et on s'assoit en tailleur pour l'écouter.
Une évacuation ne serait pas logique. Gardez votre calme. Attendez les ordres.
Le lendemain, 18 avril, on se lève avant l'aube, on fait nos bagages, et juste avant le lever du jour, trois Khmers Rouges apparaissent à la porte.
Camarades, vous devez partir, maintenant. N'emportez pas grand-chose, il n'y en a que pour 3 jours. Les Américains vont bombarder la ville.
Des bombardements américains? Mais ça ne tient pas debout. Enfin, ils nous ont abandonnés à notre sort il y a 6 jours. S'ils avaient voulu bombarder les Khmers Rouges, ils l'auraient fait à ce moment-là. On rassemble des vêtements, de la nourriture, des couvertures et des ustensiles de cuisine. Et on s'entasse, j'ai compté à 32, dans 3 voitures, plus une moto et un vélo. Et on s'engage dans une cohue sur le boulevard Monivong, en direction du sud. Je reconnais des gens. Des ingénieurs, des fonctionnaires, des professeurs, des médecins, là, des infirmières. Je vois un homme qui porte son père malade sur le dos. Je vois des éclopés avec des béquilles, des malades sur leur lit d'hôpital à roulettes, des gens qui ont entassé des objets sur un cyclopousse. Mais où allons-nous? Vers 10 h, il fait terriblement chaud. On est au mois d'avril. C'est le mois le plus chaud, c'est la fin de la saison sèche. On a parcouru quoi? 1 kilomètre quand soudain. Je regarde autour de nous, et là, sur les marches d'une maison, je vois un jeune homme de 18 ans, et à 15 mètres de lui, un soldat Khmer Rouge, le canon de son AK-47 encore fumant. Le gamin avait oublié quelque chose chez lui. Il a voulu faire marche arrière. Vers 13 h, on s'arrête à la faculté de droit. Et on passe la nuit là, avec 2 ou 3 Khmers Rouges armés qui font des rondes. J'ai une radio, mais je n'ose pas l'allumer. On est resté là 3 jours. Et le matin du 4e jour, on est reparti en direction du sud. On a repris la route, 1 jour, 2 jours à toute petite vitesse. Et plus on s'éloigne, plus les malades, les blessés, les vieillards, les impotents sont épuisés, le regard vide. On croise 2 fois des femmes pendues à des arbres. Elles se sont suicidées. Et sur le bas-côté, on croise de plus en plus de corps abandonnés. Les gens ne tiennent plus le coup que grâce à la famille. Le soir du 7e jour, ils sont venus nous prendre notre moto.
Elle est à qui cette moto? L'ANCAR en a besoin.
L'ANCAR, l'organisation. Si mes voix qu'on voulu protester.
Vous osez dire non à l'ANCAR?
Il a tiré en l'air, juste devant le visage de ma sœur. Le matin du 10e jour, à l'entrée de Koh Tom, 4 soldats Khmers Rouges nous arrêtent sur le bord de la route.
À Est-ce que vous avez des imprimés dans votre voiture? Videz la voiture de tout ce qui est imprimé. Tous vos papiers, tout. Oui, vos livres aussi, tout ce qui est imprimé.
Je lui montre mon dictionnaire français-anglais, mes manuels techniques.
Ah, c'est de la pensée impérialiste, ça. C'est les restes d'une culture féodale. Jetez-les.
On a tout jeté. Même la carte grise de ma voiture. De toute façon, 1,5 km plus loin, ils nous ont pris la voiture. Et ils nous ont donné un reçu. Un jeune Khmer rouge nous fait signe d'approcher.
Votre nom? Profession? Âge?
Je réponds de bonne foi, je dis la vérité. Lui, il note.
Vous avez des dollars?
J'hésite. La liasse est dans ma poche. Mais personne ne me fouille. Ils doivent penser qu'on ne dira jamais non à l'Ankar. Une partie de ma famille a voulu rejoindre des amis à Takeo. On se remet donc en marche vers le sud. On est 18. 18 dont 3 personnes âgées et 7 enfants. Quand on arrive à Chuuk Mao, des haut-parleurs diffusent un chant révolutionnaire strident. Des soldats nous conduisent à une pagode et pour la première fois, ils nous donnent à manger. Et après, ils se mettent à nous fouiller les poches et les bagages. Et j'ai toujours mes 3000 dollars dans la poche. Alors j'appelle mon fils, je l'attire vers moi.
Dis, Nawat,
tu vois les enfants qui s'amusent là-bas? Tu peux pas aller jouer avec eux? Et je lui passe mon paquet de dollars qu'il fourre dans sa poche. Ils ne se sont pas intéressés aux bijoux d'Annie, ni à mon magnétophone. Ils ne voulaient que des dollars. Le lendemain, même chant révolutionnaire dans les haut-parleurs. Ils nous attribuent une paillote en bambou sur pilotis, en bon état. Et l'après-midi, la cacophonie musicale est interrompue par une voix rock.
Vous êtes convoqués dans le hall de la pagode pour une réunion politique.
Et là, on se retrouve face à une demi-douzaine de cadres Khmer rouges, hommes et femmes, tout en noir, rassemblés autour d'un homme que je suppose être le chef. On se réunit par famille, on est triste, là, résigné, des zombies.
Camarades respectés et bien-aimés, vous pouvez vous estimer heureux d'être reçus ici par Ankar. Durant le règne des impérialistes, vous ne pouviez pas vous déplacer sans papier d'identité. Eh bien désormais, vous n'en avez plus besoin. Ces papiers vous humiliaient. Ils étaient comme des médailles au cou des chiens. Vous êtes libre maintenant. Délivrer des impérialistes. Ces Khoirs se sont enfuis. Les impérialistes nous ont abandonnés. Mais l'Ankar est clémente. Malgré votre collaboration à l'ancien régime, l'Ankar vous pardonne. L'Ankar est généreuse. Elle promet de vous nourrir, de vous loger, si vous abandonnez vos anciennes coutumes et vos vêtements coloniaux et occidentaux. Vous devez éliminer toute trace d'impérialisme, de féodalité, de colonialisme. Nous vous remercions d'être venus écouter l'Ankar. Maintenant, rentrez chez vous.
Ce type n'a aucune instruction. Ça s'entend. Il récite par cœur des clichés révolutionnaires. À ce moment-là, je crois encore que les Khmers rouges vont m'appeler pour aider à la reconstruction de mon pays. Le lendemain matin, à 5h30, on est tiré du sommeil par le haut-parleur.
Camarades, il est l'heure de se réveiller. Soyez à la pagode à 6h. Préparez-vous pour le travail.
Y compris les femmes et mon fils de 9 ans. Il nous distribue des haches et des machettes. Il nous sépare en groupes d'hommes, de femmes et d'enfants. Et on nous emmène dans un champ qu'il faut défricher pour en faire un champ de maïs. Et toute la journée, je coupe, j'arrache. J'ai mal aux mains, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux jambes, mais je ne vais pas me plaindre. J'ai vu des enfants et des vieillards mourir sur le bord de la route. Et ma famille à moi est indemne. Et puis les Khmers rouges n'ont pas l'air si menaçants. Quand ils nous parlent, ils sont calmes, ils sont courtois. Je ne peux pas me plaindre. On nous a conseillé de teindre nos vêtements en noir, en les plongeant dans de la boue la plus noire possible. Et de ne plus porter de lunettes. Et encore moins de lunettes de soleil. C'est impérialiste, les lunettes de soleil. On mange du riz et du sel, avec parfois un peu de poisson séché. Plus de sport, plus de loisirs, et pas de médecin. Ni de jouets pour les enfants, et pas de livres, pas d'école. 2 à 3 séances d'éducation politique par semaine, et un informateur qui rôde autour de nos maisons pour voir ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et toujours des illusions. Moi, je pense qu'ils veulent nous tester. Je pense qu'ils nous renverront à Phnom Penh quand le temps de la pénitence sera terminé, c'est tout. À un moment, ils vont avoir besoin d'ingénieurs, d'enseignants. Tous les jours, il y a des morts. Et on les enterre sans moine, sans prière. Et on commence à manquer de nourriture. Stod, mon fils de 2 ans, a le ventre qui gonfle. Et ma femme Annie n'a plus ses règles. Au mois de juillet, 3 mois après qu'on a quitté Phnom Penh, au cours d'une réunion politique,
y a-t-il parmi vous des personnes originaires de la province de Kampong Speu et de Kampot qui souhaiteraient retourner dans leur village?
Mes parents ont vécu à Udong, près de Kampong Speu. Alors je lève la main, et eux aussi. Le lendemain, on est 80 devant le bateau qui doit nous faire remonter le fleuve.
Vous êtes trop nombreux. Donc certains vont devoir partir à pied. Mais ne vous inquiétez pas. Vous vous retrouverez là-bas.
Je le redoutais, ça. Il faut donc nous séparer. Mes parents prennent le bateau avec les enfants. Et nous, on part à pied avec les bébés. Et on repasse par Koh Tom. Et là, sur le bas-côté, je vois ma voiture, ma Fiat, symbole de mon ancienne vie. Elle n'a plus de pneus, les jantes sont rouillées, le pare-brise éclaté. Quand je pense que j'ai cru que je pourrais la récupérer en présentant mon reçu et rentrer à Phnom Penh. Finalement, on se retrouve tous à Plek Tadwong. Ouf! Et là, mon père me raconte une drôle d'histoire. Tai, figure-toi que sur le bateau, un homme a critiqué l'hangar. Et là, ils l'ont fouillé. Et ils ont trouvé sur lui $10,000. Eh ben, tu sais pas ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté les billets à l'eau, Tai. Ils les ont jetés à l'eau, ils les ont pas gardés. Des ignorants. Ils nous ont fait monter dans un camion, à 30 ou 40. Et on est remonté vers Phnom Penh. On a tourné à gauche vers une piste forestière. Mais où est-ce qu'ils nous emmènent? Ils nous ont menti. Ils nous ont trompés. On ne va pas à Kampong Speu. On s'est retrouvé à Sramarliv, dans la province de Takeo.
Camarades! Vous allez bientôt retourner dans vos villages. Mais pour l'instant, nous sommes en juillet. C'est la pleine saison des cultures. Vous devez travailler ici pour cultiver le riz et produire notre nourriture. Après, vous partirez. Mais l'Ankar vous demande de rester ici. Ce sera l'occasion de vous purifier.
Ils nous ont attribué une pièce dans un bâtiment en briques dans l'enceinte de la pagode. Et le travail commence le lendemain. Annie repique le riz dans les champs, et moi je deviens laboureur. Mais un mois plus tard, les rizières s'assèchent, et tous les plants meurent. La sécheresse. Alors on nous mobilise pour construire un grand canal pour amener l'eau du lac. En allant sur le chantier, on entend un drôle de bruit, comme des marteaux qu'on frappe sur du métal. Alors on s'arrête. On regarde à l'intérieur, et là on voit une Mercedes flambant neuve et 5 forgerons qui sont en train de la désosser.
Qu'est-ce que vous voulez, vous ?
Rien. Regardez votre travail, vous faites quoi ?
On fait des socs de charrue. C'est-à-dire qu'on transforme un objet impérialiste en chose utile pour la révolution. Voilà.
Ah ! Merveilleux.
Notre travail est une perte de temps. On creuse, mais personne n'a vérifié si les canaux qu'on est en train de creuser ont une pente descendante depuis le lac. Ils croient que la ferveur révolutionnaire peut remplacer les lois de la physique. Et quand on ose le leur faire remarquer...
Vous ne connaissez rien à la révolution. Nous aussi.
Un soir, début septembre, lors d'une réunion politique.
Y a-t-il des gens ici qui viennent de Batamman et qui veulent y retourner ?
Je lève la main.
Vous êtes de Batamman ? Vous avez dit l'autre jour que vous étiez de Kampong Speu.
Oui, mais c'est ma femme et sa famille qui sont de là-bas.
On fait nos bagages le soir même.
Pour aller à Battambang, il faut traverser Phnom Penh, la capitale. Quand on arrive dans les faubourgs, au niveau de l'aéroport Pochentong, personne, pas un habitant, les jardins envahis par la végétation. Au passage, j'essaye de voir la maison de mes beaux-parents, elle est trop loin. On est sans nouvelles d'eux. Annie n'en parle jamais. On traverse le quartier de Tuol Kok, un désert. Le bâtiment de la télévision, envahi d'herbe. Le stade Lambert, plongé dans le silence. À droite, l'ambassade de France, désertée. Les camions poursuivent leur route vers le nord. On passe par Udong, où je suis né.
Regarde, Soudat. Tu vois là, c'est la maison de ton grand-père.
On traverse Kampong Chnang, déserte. Et le lendemain, après une pause la nuit... On prend la route de Pursat.
Oublié, Battambang. Ils nous ont encore menti. Et la route s'arrête là, d'un coup, au bord d'une rivière, où attendent déjà des milliers d'autres déportés.
D'après ce que j'ai compris, on va devoir aller dans la forêt pour défricher l'une des régions les plus sauvages du Cambodge, les Cardamones.
Six mois après notre départ de Phnom Penh, mon petit dernier, Stod, ne va pas bien du tout. Il n'a même plus la force de pleurer. Un soir, il a beaucoup de fièvre. Ce soir-là, il pleut beaucoup. Il pleut tellement que de l'eau ruisselle dans notre paillote. Une dernière fois, il crie « Mac, Mac, maman, maman ». Et il est mort. C'est le premier mort de notre famille. Et je vous le dis, ce n'est pas le dernier. Ils vont tous mourir, un par un. Et je serai le seul, à me sortir de cet enfer.
La musique du film La Déchirure, qui raconte une histoire absolument similaire à la vôtre, Pignatai. La suite demain de cette histoire, jusqu'à votre évasion en Thaïlande. Tous ces fantômes, toutes ces images, toutes ces scènes que je viens de raconter, est-ce que vous y pensez tous les jours ?
À vrai dire, je ne pense plus. Ils sont déjà dans le livre. Je pense que ça fait déjà 40 ans, 44 ans en fait, depuis 75.
Oui.
Donc pour l'instant, je n'y pense plus parce que je dis, j'ai déjà vidé, j'ai tellement parlé, j'ai tellement témoigné, vous voyez. Et ça ne me touche plus. Mmh. Mais la mémoire est toujours là.
Quand je re-raconte ces scènes que vous connaissez par cœur et que vous avez décrites à de multiples reprises, ces images réapparaissent ?
Oui, surtout quand je relis mon bouquin, toutes les images reviennent.
Vous le relisez ? De temps en temps,
de temps à autre, pour me plonger dans ce passé-là. Mais ça ne me touche pas. Ça ne me touche plus.
Ça ne vous bouleverse plus?
Non. Au début, oui, beaucoup. Mais maintenant, je suis un peu habitué. Ça devient une autre histoire, vous voyez. Je suis comme réincarné.
C'est-à-dire, vous regardez une histoire, mais ce n'est plus vous.
Voilà, c'est ça. Je me sens réincarné. Au début, ça me touche beaucoup. Et sinon, je ne peux plus vivre. Vous comprenez? Au début, c'était très, très difficile. Et quand je pars, j'ai l'impression d'y vivre. Et ça me fait mal. Mais il faut que je le fasse pour la mémoire de des miens.
Est-ce que vous êtes devenu quelqu'un au cœur plus sec, alors?
Non, pas plus sec. Vous savez, quand on est habitué à cette misère qui se répète tout le temps, on se sent un peu éloigné, on se vide de ces... Non pas qu'on n'a plus de sentiments, si vous voulez. C'est ce que les Camerounais nous voulaient dire, qu'il ne faut pas avoir des sentiments. Mais moi, je reste avoir toujours des sentiments. Mais tellement que j'ai parlé de mon histoire, ça m'éloigne, mais ça reste toujours en moi.
Alors au début de cette histoire, avec beaucoup d'honnêteté, je trouve, vous reconnaissez qu'en 1975, vous étiez plutôt favorable aux Khmers Rouges. Et évidemment, pour nous, aujourd'hui, en 2019, ça paraît difficile à comprendre.
J'étais très optimiste, en fait. Moi, je suis de nature optimiste, vous voyez. Je pense toujours au cas le plus favorable. Avec différents scénarios, je cherche toujours à avoir le plus favorable pour me consoler, pour me réconforter et m'encourager toujours.
Mais ce qu'il faut expliquer peut-être, c'est que le régime que les Khmers Rouges ont renversé, le régime de ce maréchal qui s'appelait Lon Nol, qui était en fait un pantin des États-Unis d'Amérique, était un régime épouvantable. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas regretter ce qui disparaissait avec l'arrivée des Khmers Rouges.
Non, on ne peut pas dire ça, vous voyez. Je ne peux pas accepter de dire ça. Il est corrompu, mais je pense qu'il reste nationaliste. Il essaie de faire quelque chose aussi, mais à la fin, il est surpassé. Dépassé par les événements, et puis par son entourage plutôt. Et puis surtout les officiers qui sont corrompus, voyez. Et ça fait qu'il a perdu la guerre. Mais en même temps, il y a aussi le prince Yano qui était aux côtés des Khmers Rouges.
Ah.
Ça, c'est très important.
Ça comptait.
Ça comptait beaucoup pour eux, surtout dans la propagande, dans la radio clandestine.
Que vous écoutiez. Diffusée
de Pékin, que j'ai écouté de temps à autre, comme la Voix de l'Amérique aussi, pour balancer les deux. Vous voyez, il a promis une autre société, mais une société juste, équitable, démocratie, libre. Vous voyez, tous ces mots-là sont utilisés.
Ça comptait donc que le prince Sihanouk soit avec eux. Vous ne les auriez pas accueillis avec le même œil si Sihanouk n'avait pas été avec eux.
Exactement. Et puis, on pensait que, voilà, ils sont communistes, mais ils sont aussi cambodgiens pour nous, comme nous. Vous voyez, comment ils peuvent faire des choses qu'on n'imaginait pas. Même pour moi, Cambodgien, quand j'étais là-bas, dans le pays, je pensais comme ça. Mais imaginez les autres qui étaient à Paris ou ailleurs, qui rentraient, même après la victoire des Khmer Rouges, ils pensent aussi comme moi.
Ils rentraient de l'étranger pour participer à la révolution.
Pour à la révolution, pour dire que voilà, je vais reconstruire mon pays, je dois participer. Mais ils ne pensaient pas du tout que les communistes Khmer Rouges font comme ils le font, quoi.
Le prince Sihanouk est resté pendant toute cette période, dit-il, enfermé dans son palais, et il dit qu'il n'était au courant de rien, et il dit qu'il a été trompé lui aussi, comme vous l'avez été vous. Vous le croyez?
Ah, c'est possible, hein, c'est possible. Mais il faut dire que quand on a déposé le prince Sihanouk, il était très en colère. Et puis, dans l'idéologie des Khmers Rouges, d'après moi...
Il n'y a pas de place pour un roi.
C'est une sorte d'alibi en prétexte, voyez, oui. Parce que les dirigeants Khmer Rouges sont aussi très haineux, voyez. Ils sont conduits aussi par la haine contre les gens de la ville. Ça les aide, en quelque sorte, pour les décisions très radicales contre la population cambodgienne.
On est en 1975, c'est important ça, parce qu'il y a un rêve marxiste dans le monde entier. Ça compte ça aussi, c'est-à-dire
ah
que...
Oui. Ça, c'est important. Ouais.
C'est-à-dire, vous êtes un jeune, comme il y en a partout dans le monde, qui pense qu'on peut avoir une autre société que la société capitaliste.
Et à chaque fois, on voit toujours des changements. Et on pensait que ce changement, c'est toujours meilleur, vous voyez. Mais en fait, les communistes sont déjà en Chine, les communistes sont déjà au Nord-Vietnam, ils sont en Russie.
Oui.
Mais personne n'a aboli, par exemple, la monnaie.
Oui.
Hein? Personne n'a abandonné les marchés non plus, vous voyez, les écoles. Tous sont là. Et nous, Cambodgiens, on pensait, à la rigueur, ils sont comme eux. Mais là, ils détruisent tout. Ils abandonnent tout.
Votre père savait que ça tournerait mal. Comment le savait-il? Et comment vous, vous ne le saviez pas?
Avant, il habitait à Oudong, une quarantaine de kilomètres de Phnom Penh, oui. Avant de se réfugier à Phnom Penh aussi. Ils ont rencontré des gens qui ont fui les zones libérées.
Par les Khmer Rouges, parce qu'ils sont arrivés à Phnom Penh le 17 avril 1975, mais ils ont mangé le territoire voilà, petit à petit.
Exactement. Et puis, ils ont en contact avec les victimes des Khmer Rouges. Donc, ils connaissaient vraiment les faits et gestes des Khmer Rouges. C'est pour ça qu'il dit, fais attention, Thaï. D'ailleurs, lui-même, il m'a recommandé de partir. Mais j'ai dit, oh, c'est pas grave. Puisque je connais beaucoup d'intellectuels, surtout les ingénieurs, qui sont dans la même association que moi, association des ingénieurs cambodgiens. À ce moment-là, j'étais le secrétaire général. Donc, j'étais en contact dans tous les bois, si vous voulez, les droits comme de gauche.
Ils pensaient tous comme vous?
Oh oui, ils pensaient comme nous. Et nous pensons que, voilà, le Cambodge devient meilleur avec les gauchistes, les communistes. Et même les royalistes, tout ensemble, on va faire une coalition.
À votre décharge, il y a une scène qui n'est pas dans votre livre, mais qu'il faut rappeler, c'est qu'en France, le 17 avril 1975, les gauchistes maoïstes ont sabré le champagne, vous le savez ça?
Oui, je savais plus tard, seulement plus tard. En lisant les journaux.
En lisant les journaux. Il y a des gens qui ont fêté l'arrivée des Khmer Rouges ici à Paris.
Ouais.
Je ne donnerai pas de nom, par charité chrétienne.
Oui, bon, mais en fait, quand je me suis enfui, vous voyez. Et quand j'étais arrivé à Paris pour donner des conférences au Canada, il y a même des gauchistes, même des partisans des Khmer Rouges qui sont contre moi. Hein, malgré tout ça, autrement dit, eux aussi, ils sont trompés, si vous voulez, par leur propre idéologue.
Il y a, au début de votre histoire, une scène qui est très caractéristique, que vous ne développez pas beaucoup d'ailleurs, mais qui symbolise beaucoup ce qu'étaient les Khmer Rouges et leur ignorance. C'est ce moment où on arrête votre voiture et on vous demande de jeter par la fenêtre tout ce qui est imprimé dans votre voiture. Qu'est-ce qu'on jette à ce moment-là? On jette le savoir, on jette la culture.
Oui, c'est comme eux-mêmes ils ont dit, ce sont des écritures impérialistes qui représentent un petit peu le féodalisme, tout ça.
Oui.
Vous voyez, ils jettent tout. L'instruction, ils n'en veulent pas. C'est pourquoi ils poursuivent même les gens instruits, vous voyez. Ce sont les menaces pour la révolution. Il ne faut pas trop comprendre, il faut juste écouter et exécuter l'ordre. Pour les Khmer Rouges, c'est ça. On ne peut pas discuter.
Et pendant toutes ces années après, vous ne croisez plus un seul livre, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de savoir, il n'y a plus que le travail de la terre.
Le travail de rééducation dans les séances, et aussi les travail sur la terre, si vous voulez.
Mais ces Khmer Rouges, qui sont devenus vos nouveaux maîtres, en vérité, vous le dites, ce sont des ignorants, c'est-à-dire qu'ils ne sont quasiment pas aller à l'école. Ce sont des gamins qui ont grandi dans les provinces du nord du Cambodge, qui étaient des petits paysans, qui n'ont aucune culture.
Non, les Khmer Rouges ordinaires, oui, mais tous les chefs sont tous instruits, vous voyez. Imaginez pas ça, Pol Pot.
Il a fait ses études à Paris, à la Sorbonne.
Oui, en plus.
Oui.
Vous voyez, ils sont tous instruits.
Mais ceux que vous voyez, vous, ceux qui parlent dans les micros, dans les haut-parleurs, dans ces réunions politiques...
Oui, généralement, ils sont les gens ignorants. Totalement ignorant. Il applique à la lettre ce que lit le chef, si vous voulez. Seul le slogan compte.
La scène du désossage de la Mercedes, qui a l'air totalement anecdotique, est sur ce point-là très édifiante, parce qu'en vérité, ils auraient bien besoin de voitures qui marchent. Mais ils préfèrent en faire des socs de charrue, quoi.
Voilà, c'est ça. Et puis, ça, c'est un symbole, disons, du capitalisme aussi. Donc, il faut le détruire. On détruit également les matériels, tous les appareils, si vous voulez, tout ce qui est produit par la société capitaliste, on les détruit.
La scène aussi des rizières en pente douce. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous êtes un ingénieur, vous êtes parti avec un manuel d'irrigation, vous savez comment on fait des canaux, et vous savez que si on veut que l'eau du lac arrive jusque dans la rizière, il faut que le canal soit un peu incliné, quoi.
Voilà, tout à fait. Il faut un appareil pour ça, un appareil topographique, comme on dit,
hein,
pour pouvoir voir l'élévation des terrains.
Oui.
Vous voyez, là, il est à l'œil nu, comment il peut le dire? C'est tout pour une longue distance, c'est pas facile.
C'est cette ignorance qui amène à la famine.
Oui, c'est cet ignorant-là, et puis c'est cet ignorant-là aussi qui fait massacrer les gens instruits. Et puis, si vous dites quelque chose, vous êtes foutu, quoi.
Mais qui sait dans ces villages où vous vivez avec votre famille, qui sait que vous êtes Pignatai, ancien directeur des travaux publics de la ville de Phnom Penh?
Personne ne sait, sauf ma famille, bien entendu.
Personne?
Personne. Sauf un jour, quand j'étais reconnu. Vous verrez ça plus tard.
Dans le deuxième épisode.
Voilà.
Ouais. Mais tout le début de l'histoire, vous vous dissimulez. Vous vous faites passer comme un homme...
Normal. normal, ignorant, ne parle pas trop non plus.
Oui.
Je ne fais pas de critiques, je ne fais pas de commentaires. Quand on me dit de faire quelque chose, je le fais, c'est tout.
Vous avez une éducation en langue française, n'est-ce pas?
Au Canada.
Au Canada. Oui. C'est là-bas que vous avez appris votre métier d'ingénieur.
Oui, voilà, tout là, à Montréal.
Par exemple, ne jamais dire un mot en français.
Ah non, on évite, autant que possible.
Oui. Et vous employez une langue, un khmer, le plus simple possible.
Le plus simple possible, parce que la langage cambodgienne est très riche, vous voyez. Il y a des mots pour les riches, il y a les mots pour les moines, les rios, les mots pour les rois et les mots pour les paysans. Paysans, manger, hope, c'est pour les paysans. Donc ouais. On n'utilise que les mots pour les paysans, pour se montrer qu'on est aussi paysans, si vous voulez.
Et vos enfants, c'est pas facile d'obtenir des enfants qui ne parlent pas les mots qu'ils avaient l'habitude d'utiliser à Phnom Penh, dans la maison?
Oui, mais c'est pas grave. Entre nous, on essaie de s'accommoder. Mais les enfants, ils n'en parlent pas dehors. En famille, ça va.
Mais vous avez des amis avec lesquels, pendant ces moments-là, vous pouvez parler à voix basse, dire tout le mal que vous pensez des Khmer Rouges?
Ah oui, aussi. Parce que vous savez, les Khmer Rouges ont divisé la population en deux parties.
Oui.
En fait, il y en a trois parties. Premièrement, les nouveaux. Ce sont les gens des villes, comme moi, comme les autres, hein, les millions. Hein, parce que les réfugiés aussi sont des gens des villes. Oui. Voyez, ils sont réfugiés. Les anciens sont ceux qui vivent toujours à la campagne et qui ont été toujours dans les zones libérées, oui. Et les Khmer Rouges eux-mêmes.
Oui.
Donc, il y en a trois catégories.
Oui.
Vous voyez, les nouveaux sont toujours à purifier, à éduquer et aussi à suivre. Si vous êtes nouveau et vous êtes instruit ou vous êtes très connu, alors vous allez être exécuté. C'est comme mon grand-père de Patrias. Vous savez, je le savais plus tard, quand j'étais sorti.
Angouat.
Oui, Hurtat.
Hurtat.
Voilà, il est amené pour être exécuté après.
Il a été exécuté, après vous lui ayez vendu,
voilà,
vendu cette visite.
Fait. Et même les chanteurs renommés, les artistes peints qui sont très connus, sont tous amenés.
Tous emmenés, tous exécutés.
Tous exécutés.
Demain, je raconterai la suite, c'est évidemment le passage le plus douloureux de votre histoire. Vous allez perdre vos deux enfants, ceux qui restent, et votre femme. Et votre père, et votre mère, et vos frères et sœurs, et vos neveux, et vous retrouvez tout seul dans une espèce d'état second à franchir la frontière thaïlandaise pour être miraculeusement sauvé. Et la dernière image extrêmement forte, c'est ce moment où vous surgissez de la forêt et vous voyez une autoroute en Thaïlande avec des voitures, des maisons, vous qui ne connaissez que le Moyen-Âge depuis déjà 2 ans. Demain, à partir de 2h de l'après-midi, je rappelle le titre de votre livre, à lire impérativement, Pignataille, tu vivras mon fils, chez Archipoge. À demain, Pignataille.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.